Bonsoir, vous êtes bien sûr IDFM, bienvenue à toutes et à tous dans notre émission Entre Chiens et Loups, l'émission culture d'IDFM avec Claude Lévy. Ce soir, notre plaisir sera multiplié par 8, par 9, même par 10. Je vous propose de rencontrer et d'entendre des voix de femmes. 8 écrivaines, essayistes, romancières venues de l'Est, plus peut-être celle qui les a réunies, je ne suis pas sûr, mais la 10e, c'est celle d'un homme qui les a accueillies dans sa maison d'édition Intervalle. Elles ont entre 40 et 50 ans, elles sont nées de l'autre côté du mur, elles ont grandi dans des pays qu'en France on amalgamait sans véritable distinction, dans le bloc assez informe des pays de l'Est. Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, Estonie, Hongrie, Yougoslavie, les pays frères, enfants captifs du grand frère intitulé Union soviétique. Loin de faire un seul bloc, grisâtre et ou marronasse, ces pays ont des langues différentes, des histoires anciennes différentes, des géographies différentes, des traditions différentes, des cuisines différentes, un humour différent, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont toutes beaucoup d'humour. Elles sont les filles de l'Est et elles jouent, et un jour elles ont sauté par-dessus les gravats d'un mur qui venait d'être abattu en novembre-décembre 1989. Plusieurs se sont installées en France. Elles ont étudié, elles ont travaillé, elles ont lutté, elles ont eu des enfants qui parlent le français comme vous et moi. Elles sont des femmes à l'Ouest, mais elles n'ont rien oublié de leur enfance, de leur jeunesse. Elles le racontent dans un recueil de textes extraordinairement puissants, très personnels, des textes forts, lucides, réjouissants, intitulés « Filles de l'Est, femmes à l'Ouest » sous la direction d'Elisabeth Laine aux éditions Intervalle, dirigées par Armand de Saint-Sauveur. Bonsoir à vous, on en a 4 ici ce soir dans la bibliothèque polonaise de Paris et je suis ravi d'accueillir Sonia Ristić.
Bonsoir.
J'accueille évidemment Albena Dimitrova.
Bonsoir.
J'accueille évidemment aussi Andrea Salajova.
Bonsoir.
Et Lenka Ornakova Sivad.
Bonsoir.
Et puis leur éditeur qui se trouve avec nous, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir aussi Armand de Saint-Sauveur.
Bonsoir.
Voilà, donc il en manque quelques-unes évidemment parmi nous, mais nous allons avoir un vrai témoignage, un vrai panorama de ce qu'était la vie avant 1989. Et avec des éléments de vie profonds où la famille, où l'enfance, où la jeunesse existe et ce jour de novembre-décembre 89 va les marquer à vie. Comment était la vie avant? Ce qu'elle est devenue, ce sont maintenant donc des femmes à l'Ouest. À l'Ouest, c'est curieux ça. De l'Ouest. Lenka Ornakova.
Non, je pense qu'on assume parfaitement à l'Ouest. C'était dans le titre, mais c'était tout d'abord dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos vies. Je crois qu'elles sont le brin de folie, elles n'auraient pas de sens.
Effectivement, votre grain de folie, on le trouve dans chaque page et dans vos histoires. Alors, avant de vous donner la parole à chacune, j'aimerais rappeler quelques mots de la préface que fait Elisabeth Laine à ce recueil de textes. Elle dit la chose suivante, avant la chute du mur, l'Europe semblait ne rien avoir appris de ce que c'était que les pays de l'Est. Est-ce que vous comprenez cette vision d'Elisabeth. L'Europe ne comprenait pas ce que c'était que les pays de l'Est. On va peut-être déjà poser la question à Armand de Saint-Sauveur, l'éditeur.
C'est une question très intéressante parce que les pays de l'Est couvrent une variété, une diversité extraordinaire de pays, de cultures, de géographie et même de climat. Et les pays du Sud et les pays du Nord, de l'Est de l'Europe peuvent être très différents. Moi-même, qui ai un peu d'origine également d'Est, même si ça se s'entend pas dans mon nom, j'ai pu constater qu'effectivement ces pays étaient très mal connus. Or, ce qu'on en dit très souvent, c'est un monceau de clichés. Et les réunir dans un seul et même dans une seule et même catégorie, c'est déjà en soi une réduction. Donc c'est un des mérites, je crois, de ce recueil, que de montrer la variété, la diversité des approches et des préoccupations des locuteurs de ces différents pays.
Très bien. Donc on va découvrir dans le détail tout ce que ces pays-là et les générations que vous êtes de ces pays-là ont créé. Lenka Ornakova et Sonia Ristić, vous avez décidé, 30 ans après la chute du mur de Berlin, de réunir la parole de femmes. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on sache de vous, Sonia Ristić?
Alors, c'était plus spontané que ça, à l'occasion d'une rencontre où on a toutes les deux participé, où on s'est rendu compte un petit peu de ce que Armand vient de dire, de ces clichés toujours très vivaces sur ce qu'était l'Europe de l'Est. En discutant, on s'est rendu compte qu'on en connaissait d'autres, des écrivaines nées dans ces ex-pays de l'Est et écrivant en français ou vivant en France. Et on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas essayer de faire quelque chose ensemble. Au départ, une des idées a été celle du rapport qu'on a au fait de se construire en tant que femme en ayant grandi dans ces pays-là. On était déjà, je crois, oui, on était déjà entré dans le premier quinquennat Macron où il y avait ce grand projet du quinquennat qui était sur la question de l'égalité femmes-hommes. Et puis les choses dans les faits, malheureusement, n'étaient pas glorieuses. Donc on a commencé par parler de ça, par parler de à quel point ces choses-là, l'égalité salariale inscrite dans la loi, l'accès au travail, l'accès aux soins pour les enfants, etc., a formé nos enfances. Donc on est parti de là, mais après, une fois qu'on a invité les copines, les amies à se joindre à nous, elles ont chacune pris leur piste, pris leur chemin. Certaines ont parlé de ce point de vue féminin, de construction féminine. D'autres se sont emparées d'autres sujets, comme par exemple à Albena, de la question économique ou de la question écologique, etc.
On en parlera avec Albena, bien sûr. Lenka, dans ce projet, il y avait peut-être l'idée de dire ou raconter quelque chose à vos propres enfants de comment c'était de l'autre côté du rideau.
Peut-être c'était aussi définir quelque chose à soi, parce qu'en fait on est parti vivre donc de l'autre côté de ce tas de gravats qui était le mur auparavant, et nous-mêmes on connaît plus nos pays, à vrai dire. Ils grandissent, ils évoluent sans nous, et donc de se dire c'est toujours très intéressant, et de se dire de manière polyphonique, c'est-à-dire avec toutes les couleurs, les nuances qu'on connaissait dans nos enfances et qu'on portait en soi, mais d'entendre la voix de l'autre, c'est toujours très enrichissant. Et comme dit Sonia, on n'avait pas le sujet imposé, donc le recueil est très divers, mais en même temps, il y a une complicité souterraine, quelque chose qu'on retrouve dans ce recueil, qu'on va dire quelque chose est en commun. Et moi, je ne veux pas tomber dans le cliché, justement, pour ne pas le continuer, mais cette vie de l'autre côté a quelque chose qui, on partage. Mais ce partage est à la fois avec cet Ouest qui nous a accueillis, mais aussi entre nous, parce que on pouvait s'apercevoir que même entre nous, on vivait sur nos clichés des Polonais par rapport aux Serbes et vice versa, etc.
Oui, c'est ça. C'est que finalement, on ne se connaît pas soi-même. C'est peut-être un de vos points communs, peut-être, ne pas se connaître soi-même, ou tout au moins de se rechercher en permanence dans son identité. On y reviendra sans doute avec Sonia. J'aimerais demander à Andrea Sarajova. Vous, vous êtes né en 1974.
Oui.
À l'est de la Tchécoslovaquie.
Et de la Slovaquie.
Et vous avez eu une enfance. Comment pourrait-on la caractériser cette enfance très urbaine, ou bien plutôt une vie à la campagne?
Alors, je suis née dans une petite ville, donc ce n'est pas vraiment une enfance ni urbaine ni campagnarde, entre les deux. Pourquoi cette question ?
Parce que vous racontez l'histoire d'une famille et de plusieurs générations. Et il y a une sorte de transmission avec la présence d'une grand-mère qui est particulièrement frappante. Et puis une forme de nostalgie peut-être, de beaux moments et de moments un peu difficiles.
Oui, il y a une femme très forte et très présente sur les épaules de laquelle tout tient. Je pense que malgré les apparences et malgré tout ce qui est dit, que les pays de l'Est n'étaient pas vraiment les sociétés patriarcales, mais matriarcales. Parce que tout tenait sur les épaules des femmes. Je pense que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes, étaient là-bas. Du temps du socialisme réel, comme on nous disait, puisque les hommes se sont compromis de leur propre volonté ou de force avec le régime, et c'était quelque chose de très douloureux pour eux. Donc l'homme, souvent celui que j'ai connu, était un tout petit peu abattu, n'avait pas beaucoup de courage, pour tout un tas de raisons. Et puis bon, c'est les femmes qui devaient faire tenir le monde et faire en sorte que les choses continuent, que les enfants puissent être vêtus et nourris, etc.
Effectivement, la cuisine a une certaine importance dans ces familles, avec l'inquiétude de ne pas avoir suffisamment à manger, ou il fallait faire la queue un peu partout, peut-être, peut-être pas dans votre petite ville.
Non, j'ai pas connu les queues pour acheter les aliments. Par contre, effectivement, on vivait de manière, quand on compare même aujourd'hui, on va dire modestement. On avait de tout, mais c'était pas une abondance folle comme on peut en avoir aujourd'hui, comme ce que nos compatriotes ont aussi aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que ça signifiait pour vos parents de partir? Et qu'est-ce qu'il fallait quitter? Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui est marquant dans votre texte et dans votre expérience. Qu'est-ce qu'il fallait quitter?
Pour moi-même, il faut peut-être préciser, je vais parler pour ma part, c'est peut-être pas la même chose pour mes amis. Moi, je suis partie dans une période d'une sorte d'euphorie qui persistait encore après la chute du mur, d'une part, et d'une autre part, concrètement en Slovaquie, les choses commencent à être assez bloquées, l'avenir semblait à nouveau enlisé et impossible. Donc toutes ces deux choses, j'étais pas la seule, à l'époque, à la fin des années 90, les jeunes partaient à l'ouest, toujours. Toutes les migrations modernes, comme vous pouvez constater, se sont faites à l'ouest. Mais c'était pas une sorte de nécessité économique, où bien sûr je fuyais pas la guerre. C'était aussi de connaître autre chose, de vivre autre chose. Comme on partait dans des siècles passés pour apprendre, pour acquérir une connaissance qu'on peut pas avoir autour de soi. Donc je m'inquiétais pas. Je partais certainement très naïve, bien heureusement, parce que
avec votre famille.
Non, vis-à-vis de moi-même.
Ah, non, mais vous partiez toute seule ?
À toute seule, bien sûr, je pense qu'on était parties toutes seules.
À part Marina Skalova, qui est venue enfant avec ses parents, c'est ses parents qui ont...
Alors, donc, vous venez toute seule pour découvrir le monde et découvrir l'Ouest.
C'était une aventure, bien sûr, bien sûr. Comme j'avais dit, j'étais d'une naïveté incroyable. Et bien évidemment, parce que si je savais toutes les difficultés qui allaient m'attendre, peut-être que j'aurais pas osé. Mais tant mieux.
Alors, donc, vous aviez 15, 16 ans et
Non, beaucoup plus, 10 ans de plus quand même. J'avais déjà fini mes études universitaires et je venais officiellement pour les compléter. Mais...
Vous avez trouvé autre chose ?
Exactement.
Lena Kornakova.
Je voulais juste ajouter par rapport à ce que vient de dire Andrea. En fait, on a dans nos pays, on est bercé par les contes de fées. Et dans tous les contes de fées, il y a toujours un départ du fils qui était paresseux, etc., qui roulait dans les jupes de sa mère. À un moment donné, on le jette sur les routes, on dit, va acquérir l'expérience, reviens si tu en es capable et partage ton expérience. Et beaucoup de contes de fées commencent comme ça. Donc c'est comme un palier dans notre acquisition du monde adulte, cette idée qu'il faut partir. Alors, on en était empêché pendant plusieurs générations, plusieurs décennies. Et donc là,
c'était important, ça, le fait d'être bloqué ou chez soi.
Ça a augmenté la faim de partir, de ce départ. Donc c'est vrai ce qu'elle dit, Andrea. Si on pouvait, horizon s'est dégagé, on y allait. Parce que ça fait partie d'une formation à la fin, au début dans votre enfance, on vous raconte depuis tout petit. Alors le petit Jeannot, il va partir dans le monde et il va décapiter les trois têtes d'un dragon et il va se marier avec une princesse, avoir moitié du royaume. Et vous, on vous interdit même de traverser la frontière de votre région. Il y a un problème. Donc voilà.
Effectivement. Donc ça donne envie, ça donne faim, comme vous dites. Andrea.
Juste une petite chose. Maintenant, la question que se pose pour nous, ou bien se pose plus, c'était posé, c'est pas pourquoi nous sommes partis, mais pourquoi nous ne sommes pas revenus. Pourquoi nous sommes restés en France.
Pourquoi nous ne sommes pas revenus.
Puisque nous sommes bien ici.
Tome 2.
Dans le tome 2, effectivement. Nous ne reviendrons peut-être pas.
C'est effectivement, c'est un sujet peut-être qui n'a rien à voir avec notre soirée, mais c'est un vrai sujet.
Sonia Ristic.
Oui, je pense que c'est j'ai l'impression que c'est l'éternelle question de l'exilé, de l'émigré, d'où qu'ils viennent, pas seulement de l'Est ou du Nord ou du Sud de l'Europe, même dans les autres. Celui qui vit entre deux pays, entre deux cultures, entre deux continents, etc., finit par naître de nulle part, donc par rester l'étranger là où il vit, où elle vit, et par être étranger, étrangère dans son ancien chez soi. Donc je pense que ça nous dépasse même notre question Est-Ouest.
Est-ce que on va poser la question à Albena Dimitrova, qui est née en Bulgarie en 1970. C'est pas si loin que ça. Dans quel milieu social? Votre texte commence fort. Justement par la question du milieu.
Il se termine pas si mal que ça, j'espère. Mais oui, le milieu était assez... il a fallu 30 ans après la chute du mur pour que je puisse me rendre compte de ça. Et
donc, voilà ce que vous en dites. Je vais vous citer. « Je suis la fille d'un propagandiste collectiviste et d'une pédagogue bourgeoise. » Ça démarre fort quand même, non?
Mais oui, mais et en même temps, c'est la réalité. Et cette maman bourgeoise qui venait d'une famille moyennement aisée, moyennement riche avant le communisme, qui s'est faite nationaliser quelques terres, quelques maisons et un salon de coiffure, je crois. Donc ça, mon grand-père avait du mal à le pardonner. Et pourtant, il gardait Staline dans son porte-monnaie. Donc c'est pour vous dire, c'est qu'on n'est pas un paradoxe près. Et puis ce père, qui lui, il était vraiment fils issu d'une grande famille propriétaire terrienne, qui, elle, n'a pas attendu de ses parents, en tout cas, n'ont pas attendu que le communisme arrive pour réaliser leur communisme. C'est-à-dire que la fille du grand propriétaire terrien
à fauter avec le, comment il s'appelle, le gars qui s'occupe des chevaux dans la...
Palefrenier.
Et là, mon père est né. Et donc, ils vivent en prolétaire avant même l'arrivée de...
Mais ça les a marqués, ça, puisqu'il est devenu une sorte d'apparatchik, non ?
Pas une sorte, un véritable apparatchik, totalement convaincu que tous ces gens pleins de moyens sont des moins que rien et qu'il faut vraiment les punir pour cet égoïsme, cette absence de générosité envers la vie. Et puis, il était très content parce qu'il disait qu'il ne devait rien à la famille, puisque c'est le parti qui a financé ses études, puisque l'université était gratuite. Et donc, j'avais un père extrêmement convaincu du bienfait de l'humanité, de répartir les richesses autrement.
Autrement, mais avec un appareil qui s'appelle, en français, le piston. Vous insistez quand même beaucoup là-dessus. Albina Dimitrova.
Ben, j'insiste, et là, c'est pas le piston de, forcément que de papa. Hein. Enfin, c'est un système D. En France, on appelle ça le système D. C'est-à-dire qu'il faut adoucir la machine qui est totalement, enrayée. Et d'une certaine manière, ben, l'huile qu'on met dans cette machine pour que ça ne craque pas complètement, c'est comme, à mon avis, un de ces chars T-64. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre comme huile de machine? Eh ben, c'était la même chose. Et nous, là, c'était cette solidarité d'un piston, je te rends un service, toi tu me rends un service, et puis ainsi de suite. Et sauf que...
Malheur à celui qui n'a pas l'huile à mettre dans les rouages.
Ben, curieusement, toute la société, on trouve toujours quelque chose qui est intéressant, qui peut intéresser un tel. Et c'était en plus avant Facebook, mais ça marchait super bien, les réseaux sociaux, de bouche à l'oreille.
Le destin particulier de votre mère, Albena, c'était d'être un grand médecin, avec un service de pédiatrie cardiaque, je crois. Et qu'est-ce qui s'est passé pour elle? On était dans quelles années?
C'était, on était juste les années, pas jusqu'aux années 89, mais ma mère, en fait, était pas du tout un grand médecin. Elle était, elle s'était spécialisée dans la grande psychologie des maladies cardiaques enfantines. Et comme Freud était banni de nos sphères sociologiques et psychologiques, en tout cas en Bulgarie, je ne sais pas comment c'était chez vous, parce que les Serbes, enfin la Yougoslavie, j'ai découvert grâce à Sonia que c'était quand même un monde très à part. Et donc voilà, Freud étant interdit, ma mère faisait une sorte de psychologie pour les malades, pour les enfants malades à qui on a installé des appareils cardiaques.
Ok, mais elle perd son travail. On ferme son service. C'est la chute du mur.
Oui, ça c'est la chute du mur. Parce que la rentabilité, aller créer des liens entre la famille et l'enfant qui physiologiquement est guéri, mais psychologiquement le trauma de cette lourdeur de la maladie souvent de naissance, une malformation, tout ça c'est du superflu, c'est pas très capitalistique.
D'accord. Donc on est passé vraiment du mauvais côté de l'Ouest, si de la boussole. Il y a évidemment dans vos textes, chacune à votre manière, une colère, une envie. On parlait de faim tout à l'heure, mais il y a une colère et avec des mots forts. Et vous, en particulier, Albena, vous insistez beaucoup sur les dégâts causés par l'hyperconsommation et les dégâts qu'il y a sur l'environnement. Vous avez des phrases belles mais terribles. J'aimerais que vous nous lisiez cette phrase.
Le mur est tombé, mais le Danube ne s'est pas assaini. Aujourd'hui, j'éprouve une immense tristesse devant ce gâchis de ces 30 ans durant lesquels nous avons abandonné l'idéal de vérité, de liberté et de lutte contre les tyrannies.
Il y a une forme d'ambivalence dans tout ça. J'aimerais peut-être poser la question à Sonia, qui aussi manifeste une certaine forme de lutte. Enfin, si la colère, c'est de la psychologie, mais vous, c'est plutôt de la lutte. Est-ce que, selon vous, le passage vers l'Ouest de ces pays qui était anciennement sous la domination soviétique, a causé également des dégâts. On sent que ça pointe toujours un peu chez vous. Sonia Ristić.
Alors, je ne sais pas si c'est concernant la Yougoslavie ou si c'est non, concernant... Je ne sais pas si je suis vraiment compétente pour y répondre, mais je pense que oui. Enfin, mais c'est pas le passage, c'est pas la chute du mur et le passage entre guillemets de l'autre côté du mur qui cause des dégâts. C'est l'ultralibéralisme dont sont victimes tous les pays européens, qu'ils soient anciennement de l'Ouest ou anciennement de l'Est, où on est un peu tous logés à la même enseigne, à part peut-être quelques pays scandinaves qui résistent encore un peu et encore pas beaucoup. Mais donc je n'ai pas l'impression que ce soit pire pour les anciens pays de l'Est que ça ne l'est entre guillemets Europe de l'Ouest.
Je pense en particulier à cette phrase: nous avons abandonné l'idéal de vérité, de liberté et de lutte contre les tyrannies. On est un peu partagé entre ces deux mondes. Est-ce que on peut poser la question à Alen Karnakova?
Moi, je trouve qu'il y avait un grand malentendu, en fait. Nous, on était dans une attente de ce que c'était l'Ouest. On était dans la naïveté de l'illusion qu'on nous servait dans peu de cinéma, par exemple, qui traversait les frontières, ou de la littérature qui était plutôt du 19e que du 20e. Et donc, on était bercé, effectivement, par une illusion de ce que c'est l'Ouest et ce que c'est la démocratie. Et avant la démocratie, il me semble, est arrivé d'abord le capitalisme. Et ça, on n'en avait aucune clé de lecture et aucun moyen, aucun outil. N'était pas outillé pour à la fois comprendre, utiliser, l'attraper, cette chose-là. Et donc, on courait pendant un certain nombre d'années après, que ce soit sur le plan juridique, de société, ça cassait des structures sur lesquelles on se posait jusque-là, c'est-à-dire cette entraide familiale ou système D, on va l'appeler comme on veut, mais on survivait là-dessus. Ce n'était pas bien, je ne parle pas de la nostalgie. Aucune ne voudrait retourner derrière le mur. Attention, ce n'est pas la nostalgie, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en avait fait. Et là, je crois qu'on avait des malentendus.
Eh bien, on va avoir le point de vue d'Andrea Sarabioba.
Je veux rajouter quelque chose, peut-être pas très gentil pour nos compatriotes, et peut-être pour nous-mêmes aussi. C'est que, en fait, on voulait être riches, tous, et très rapidement, c'est ça le problème. Il y avait une énorme envie de s'enrichir. Peut-être pas pour tout le monde de la même manière, mais cette frénésie énorme de égaliser le niveau de vie de l'Ouest était présente vraiment partout. D'accord, c'était aussi pour des questions de liberté, de démocratie, etc., etc. Mais le niveau de matériel était très important.
On va y revenir. Je vous propose, c'est vraiment très intéressant, on va vraiment y revenir sur cette question. On va écouter un peu de musique, là, le choix musical de ce groupe. Et on se retrouve dans un tout petit instant. Cyklada, cyklada, Voilà, toujours sur IDFM Radio, dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy. Et ce soir, nous sommes en compagnie de 8 filles de l'Est qui racontent leur enfance, leur jeunesse et leur entrée vers ces pays de l'Ouest qui les faisaient rêver. Alors, ça scintillait beaucoup et on avait envie de richesse, nous disait Andrea. On a Albena Dimitrova qui est avec nous, qui est bulgare et qui est économiste. Quel est le point de vue, justement, de l'économiste sur cet attrait des biens matériels dont parlait Andrea à l'instant?
Ah ça, en tant qu'économiste, je ne sais pas si je saurais dire d'où vient l'attrait pour ça, mais ce que je sais, c'est que peut-être à la différence de mes copines, c'est que moi, je suis partie un tout petit peu avant la chute du mur. C'est-à-dire, mais vraiment, genre 10 mois avant. Et en fait, mon départ était habité d'un projet totalement différent. C'était d'abord, et là je rejoins Andrea et Lenka et peut-être Sonia, mais je suis partie pour quitter ma grotte, voir que la grotte, vous savez, de Platon, où on sort pour aller voir un peu comment ça bouge ailleurs. Et puis, comme je vous ai dit, je suis issue quand même d'une réunion bizarre entre un propagandiste et une mère qui, à la fois, était vraiment dans un travail dédié à l'autre, mais qui rêvait d'avoir un compte en banque. Et elle rêvait d'un crédit, elle rêvait de cette civilité des temps modernes dont elle se sentait privée en Bulgarie. Et donc, je suis sortie pour voir entre ces deux mondes-là, lequel avait tort, lequel avait raison. Est-ce que le monde était meilleur avec des systèmes bancaires ou est-ce que c'était mieux avec la bonne propagande de papa? Et je sais pas, mais c'était difficile de trancher tout de suite. Et j'ai été même tentée, c'est pour ça peut-être que j'ai choisi les études d'économie, parce que j'aimais les mathématiques et la littérature. Et entre mathématiques et littérature, j'ai trouvé ça comme une moyenne, quoi, le dénominateur commun. Et il y a une dimension philosophique dans l'économie. Je sais que quand on dit économie, ça fait toujours enfin une réaction, mais pour moi, c'est un art de ranger la maison, l'économie. Et pas que pour moi, étymologiquement, c'est exactement ce que ça veut dire. Et donc, voilà mon expérience. Et puis, quelque part, pour être tout aussi honnête qu'Andrea, peut-être que je voulais vraiment comprendre comment marche cet Occident pour le détruire de l'intérieur.
Voilà la fin.
Alors, détruire l'Occident de l'intérieur. Alors, c'est la volonté d'autres gens, hein, qui peut-être vous vous y retrouvez dans ces destructeurs de l'intérieur, mais ou de l'extérieur.
J'avais 19 ans. D'accord. Ça a un tout petit peu changé depuis. Un tout petit peu beaucoup. Et le tonton Poutine, là, je pense qu'il nous a clairement dit pourquoi on ne voulait pas revenir en arrière. Si jamais il y avait quelques nostalgiques, non pas parmi nous, mais parmi peut-être les gens.
On reviendra à la fin de l'émission sur ce point. Mais j'aimerais que Lenka Ornakova nous raconte brièvement cette nuit extraordinaire dans ce chalet de montagne qu'elle raconte merveilleusement dans le livre. C'était une autre vision du monde. Vous étiez en plein hiver, hein, c'était dans un chalet de montagne. Racontez-nous ça.
J'étais à l'endroit où je ne devais pas être, d'ailleurs, parce que j'étais toute fraîche étudiante à Prague, venue de ma province, et je devais, a priori, faire partie de la manifestation des étudiants pour l'anniversaire du 17 novembre. C'est une journée internationale des étudiants. Et c'est à ce moment-là que le mur a vacillé à Prague. Mais ce n'était pas
prévu, pas prévisible. Et donc, évidemment, moi, je suis partie à la montagne avec des amis pour fêter à la fois mon anniversaire un peu tardivement et puis ce départ pour Prague, parce que c'était la fin d'une époque, enfin, un palier dans ma vie. Et puis, tout d'un coup, pour des raisons météorologiques et complètement inexplicables, on a capté les chaînes autrichiennes. Et donc, on avait des images que personne d'autre n'avait dans tout le pays, donc qui était à l'époque encore Tchécoslovaquie. Et on a regardé les images de la manifestation qui se faisait effectivement tabasser par la police. Et pendant plusieurs heures, on se demandait, est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est la réalité? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, la première idée et la seule chose à faire était descendre le lendemain matin dans la vallée pour vérifier la marche du monde. Y a-t-il un monde encore après ce qu'on avait vu à la télé? Et le monde était complètement ignorant de ce qui s'est passé. Donc, en fait, vous vivez dans une différente réalité. En une demi-heure, on ne savait vraiment pas ce qui s'est passé. Donc, d'être instruite de la chose ne vous dit rien si la chose elle-même n'est pas sue et connue de tout le monde. Enfin, c'est la philosophie, elle est là aussi. C'était un espèce de hiatus de la réalité du monde en quelques heures. Donc oui, et on le vit un peu tous les jours. Et là, le rappel de l'actualité est très fort de ce hiatus. Oui.
Avec le recul, ah oui, effectivement. Avec le recul, vous parlez de blessures jamais soignées. Qu'est-ce que vous mettez sous cette sensation très forte des blessures jamais soignées et qui saignent encore?
Je pense qu'on s'était tous aperçus de ces blessures de manière vraiment très très forte au moment du Covid et des confinements. Tout d'un coup, les frontières se sont fermées à une vitesse absolument incroyable, alors qu'on avait mis beaucoup, beaucoup d'années et décennies à ouvrir et rendre perméables les frontières. À quelle vitesse elles se dressent? Et combien de temps ça demande pour les ouvrir, ou tout au moins rendre perméables au regard, au bruit et au passage des gens. Et donc là, ça rejoint un peu votre question aussi qu'on avait traitée tout à l'heure, de retour, de non-retour, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous ne sommes pas revenus. À ce moment-là, je crois que toutes, on s'était posé cette question de où est notre chez-soi, où est-ce qu'on peut revenir, à quel moment, interdiction. Et c'est la question du temps qu'on ne s'était pas donné pour s'entendre, pour se raconter, pour justement ajuster, c'est pas très joli, mais enfin c'est la réalité, de ces illusions et ces réalités qu'on avait, à la fois les occidentaux sur nous, sur ce qui se passe derrière le mur, c'était tout aussi naïf et inventé. Nos vies étaient inventées en Occident aussi. Et nous, ce qu'on rêvait de l'Occident. Et ce temps-là, il nous manque toujours un peu, je trouve.
Oui. Oui. Votre texte s'intitule « Vers le paradis » ou...
Non, le paradis, c'était avant.
Voilà, le paradis c'était avant, c'est pas une frontière, il y a pas de frontière, c'était dans le temps. Il y a quelque chose aussi qui est très fort, Lenka, et j'aimerais poser la même question à vous quatre. Vous dites du passage de l'enfance à l'adolescence, on dit à ses parents qu'ils ont construit leur vie sur des mensonges. C'est très fort, c'est vrai partout. Mais c'était d'autant plus vrai, je pense, dans ces pays où le mensonge faisait comme partie de l'organisation sociale, de l'organisation politique. Elle était fondée un peu sur le mensonge. C'est quelque chose que Katrina, qui est estonienne, pointe vraiment de manière très forte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a qui vous a donné envie justement de partir, de refuser ce mensonge? Quand vous disiez ça, Lenka, à vos parents, c'était un effet de l'adolescence ou c'était encore autre chose?
Ouais, je crois que c'était le tout à la fois. J'avais effectivement 18 ans, donc on est encore très bête, hein, et pas fini. Et en même temps, on a l'énergie de changer le monde, et on y croit très fort. Donc c'est ça qui est magnifique dans ces années-là. Et en effet, mes parents sont la génération née dans le communisme, grandi, vécu, bâti leur vie tout le long. Et donc ils ont grandi dans une propagande en définitive permanente. Ils ont grandi. Évidemment que c'est exagéré de leur dire votre vie est un mensonge, mais en même temps, elle était bâtie sur un système qui était bancal, qui ne pouvait pas tenir dans le temps. Donc c'était moi je disais ça, et en même temps je disais le pire c'est que j'ai vrai. Vous voyez que c'est la vérité. En fait, c'est ça. La jeunesse est cruelle dans ses croyances, et en même temps, elle ne peut pas être autrement. C'est ça qui est génial. Enfin bon, mes enfants, ils vont me remettre ça aussi un jour, hein.
Sur le mensonge qui fait partie du fonctionnement.
Mais
Albéna.
Justement. Je pense que c'est, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, c'est pas tant le mensonge généralisé, parce que quand il est généralisé, vous n'avez pas d'autres références. Mais c'est le rapport à la vérité, en fait, qui est interrogé. Parce que des mensonges, il y en a partout, en Occident, en Orient, même chez les Chinois, je pense, il y a du mensonge. Bref, donc, c'est le rapport à la vérité. Est-ce qu'on volait de la vérité, et est-ce que on devait, quel prix on devait payer pour une vérité? Et parfois, ça nous semblait trop cher, la vérité.
C'est-à-dire?
J'anticipe peut-être sur la suite de vos questions, mais dire un mot qui est vrai et le dire publiquement peut vous amener en prison aujourd'hui. Il suffit de dire, enfin, il y a encore quelques mois, d'aller devant Kremlin et dire « guerre ». Et c'est fini. Donc c'est un peu cher comme vérité.
C'est le prix de la liberté?
Oui, mais...
Le courage?
Il faut du courage. Il faut et du courage, et du désir, et de l'impossibilité de s'en priver de cette liberté. Or, quand vous grandissez avec une autre notion du rapport à la vérité, ce désir naît peut-être... un peu des contes des fées.
On va pas aller vers les contes des fées, mais on va aller vers de la musique pour reprendre notre souffle et on terminera l'émission avec Sonia Ristich qui justement a une analyse très percutante de cette notion de vérité et des mythes fondateurs qui la trompent en quelque sorte. À tout de suite sur IDFM. Voilà, nous quittons Biello Dougmé pour retrouver notre entretien avec les filles de l'Est et notamment avec Andrea Salajova, qui a quelque chose à rajouter sur l'idée de vérité. Pourquoi est-ce que c'est une question ? Est-ce où vous avez peut-être la réponse, vous ?
Non, je ne vais certainement pas avoir la réponse pour dire ce que c'est la vérité, mais ce qui nous intéresse, il me semble, et c'est aussi pour ça que nous avons écrit ce que nous avons écrit, c'est ce moment où la vérité, ou ce qu'on pense être la vérité dans laquelle nous avons vécu pendant longtemps, se désagrège, craque. Et ce moment de craquement, ça nous... Chaque être humain, vis-à-vis de ce moment, se relève à lui-même. Et ce moment de craquement, c'est quelque chose de très riche et très important, et c'est peut-être aussi pour ça que nous écrivons, et c'est peut-être grâce à ces moments que la littérature existe. C'est quelque chose, ces conflits intérieurs sont très, très riches, très, très féconds pour chaque créateur.
Et oui, et on a affaire à de... vraie grande romancière, et c'est pas Armand de Saint-Sauveur qui nous contredira, mais j'aimerais avant de finir avec lui et lui redonner la parole à Armand de Saint-Sauveur, j'aimerais qu'on aille avec Sonia Ristich vers ces mythes fondateurs qui vous ont tant habité et que peut-être vous avez un peu remis en cause. Sonia, quels étaient les mythes fondateurs sur lesquels vous êtes construite ?
Alors, je les ai absolument pas remis en cause, pas le moins du monde. Je tiens à commencer par ça déjà pour prévenir la baffe qui viendrait si jamais ma mère m'entendait dire que je le reniais. Et puis aussi parce que c'est la vérité me concernant. Alors ça touche vraiment d'une part à la particularité de ce pays qu'a été la Yougoslavie, la RSF de Yougoslavie, donc avant son explosion dans la guerre civile, dans la succession d'agressions et de guerres civiles des années 90. Et puis aussi, il y a la particularité de ma famille, qui est une famille majoritairement de résistants et de résistantes. Moi, j'ai vraiment choisi dans ce recueil de parler de comment je me suis construite en tant que femme en ex-Yougoslavie, avant de venir me confronter à, on va dire, à la France, à la société française, puisque je ne sais pas si c'est la même chose dans tout l'Occident. Et il se trouve que je viens vraiment d'une famille, donc, de résistantes où des jeunes femmes de 19, 20 ans ont pris les armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui n'était pas une rareté sur ce territoire et dans cette, parmi les partisans yougoslaves. Je serais incapable de donner des chiffres, mais je crois que c'est le plus haut pourcentage de femmes dans la lutte armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a eu partout, dans toutes les résistances européennes, mais là, le nombre de femmes en armes a été particulièrement élevé. Et c'est peut-être ça aussi, en dehors de ce matriarcat dont Andrea et Lenka ont parlé tout à l'heure, il y avait aussi quelque chose de très concret, c'est-à-dire au moment où ce pays s'érigeait, il est né en 43 dans le maquis, mais on va dire qu'il a vraiment pris son envol en 45 à la libération. Au moment où ce pays s'érigeait, on pouvait pas dire aux femmes de retourner à la cuisine, puisqu'elles n'étaient pas restées à la cuisine, ni à côté des lits des blessés pendant les 4 années précédentes. Elles ont vraiment lutté. Donc pour moi, ces mythes fondateurs, je les renie absolument pas. J'avais pas besoin particulièrement de preuves que femmes et hommes sont égaux. Mais si j'en avais eu besoin, je les aurais eues de manière très évidente.
Il reste quand même que vous avez une certaine déception de ce qui s'est produit par la suite. dans votre texte.
C'est même plus qu'une déception. Il y a eu une guerre fratricide avec un quart de million de morts. Donc ça va un peu au-delà de la déception. C'est un deuil. C'est le deuil non seulement de tous les disparus dans cette guerre, de toutes les atrocités commises, des camps de concentration qui renaissaient alors qu'on avait dit plus jamais ça, mais c'est aussi le deuil d'un pays qui fut en tout cas à mon avis un très beau projet, qui fut un projet assez utopique, puisque nous avions quasiment tous les avantages de ce qu'est le socialisme et aucun inconvénient. Nous à part le fait qu'effectivement on élisait toujours des représentants qui venaient tous du Parti communiste, ce qui n'est pas qu'un détail, mais on les élisait quand même. On avait les frontières ouvertes, on avait une devise échangeable contre des devises européennes, on allait et venait, on pouvait émigrer, aller travailler ailleurs comme n'importe quel ouvrier émigré partout dans le monde et revenir et réinvestir dans son pays. Donc il y avait quand même un projet de société, un autre socialisme, on va dire.
Oui, enfin, je parlais à l'instant d'une certaine déception. C'est dans ce texte où vous parlez de la Yougoslavie qui a été démontée, pour ainsi dire démembrée, et où les valeurs que vous défendez avec votre acharnement, votre vivacité, votre intelligence, votre créativité, tout ça a été transformé en quelque chose de détriqué, il me semble.
Oui. Oui, et pire qu'étriqué, malheureusement, c'est un pays qui, après même pas un demi-siècle d'existence, a viré, cette utopie a très très mal viré, puisque ce qui est venu dans l'évolution, c'était pas vraiment l'ouverture du marché et les premières élections démocratiques. C'est venu aussi, mais c'est venu au prix de l'essor des nationalismes et des idées, on va dire, très très rétrogrades, qui sont malheureusement aujourd'hui au pouvoir dans quasiment tous les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Donc on a les mêmes, ce sont les nationalistes qui sont au pouvoir, ce sont les extrémistes religieux qui sont au pouvoir. Donc malheureusement
la place des femmes,
la place des femmes est beaucoup moins enviable aujourd'hui qu'elle ne l'a été dans les années 60 ou 70. Dans les années 60, il y avait des programmes spéciaux dans les hôpitaux à Belgrade où des Françaises pouvaient venir avorter pour très peu cher. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est à Belgrade, mais je pense que c'est pas glorieux parce que les orthodoxes, surtout les orthodoxes serbes qui se sentent très proches de Kirill et des orthodoxes russes, mais en Croatie, c'est la même chose. On peine à trouver un endroit où on peut avoir accès à l'IVG.
La question de l'avortement aurait vraiment fait partie de notre entretien, parce que avec vous et dans les pays où il existait déjà depuis les années 20, peut-être les années 30, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas aborder. J'aimerais simplement un an après l'invasion, la tentative d'invasion par la Russie de l'Ukraine, avoir votre sentiment, bref, malheureusement, sur cet événement historique comme sorte de révélateur de votre choix de faire comprendre, de faire émerger la vérité et de lutter contre la domination et le mensonge. Est-ce que vous, à qui on peut... À Albena Dimitrova.
En fait... C'est pour moi, ça a été, je pense qu'entre nous, nous étions vraiment choqués et ce choc continue, même si, hélas, on finit par intégrer, en fait, cette réalité qui accompagne le quotidien. Mais ce qui est dégradant et ce qui est éprouvant, c'est pas tant le rapport, la vérité ou pas la vérité, c'est de voir à quel point vivre sous un bocal comme ça de résonance de autoritaire finit par vous dévier complètement du courage de penser. Et ça, c'est terrifiant pour moi, en tout cas personnellement, de m'imaginer quand je vois ces jeunes visages derrière Poutine dans ces meetings hallucinants de archaïques, de d'autres temps. Et je peux pas ne pas penser, j'aurais pu y être.
Vous acquiescez toutes. Non. Je vois Andrea.
Bien sûr, moi aussi je me suis posé cette question, mais en même temps je me suis dit aussi que j'aurais pu être à la place des Ukrainiens, j'aurais pu être le président ukrainien. Il se trouve, je veux rien dire par là. Par exemple, à Slovaquie en ce moment, il y a une présidente qui a plus ou moins mon âge. Donc ça aurait pu nous arriver. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Est-ce qu'on serait aussi à la hauteur comme eux?
Question qui reste ouverte. Je voudrais laisser la parole à Armand de Saint-Sauveur, l'éditeur de ce livre, le directeur des éditions Intervalle. Vous avez dit oui tout de suite. Pourquoi à ce projet?
Je crois qu'on aura compris en écoutant toutes ces autrices aujourd'hui, qu'il y avait une forme de, on pourrait appeler ça une sorte d'esthétique du décalage dans ce recueil, qu'elles pratiquent tous avec beaucoup de talent. Il se trouve que moi, c'est ce que je travaille dans la ligne éditoriale de la maison, c'est se excentrer les points de vue, décaler le regard, jouer avec les frontières. Et donc, ça c'était assez évident, en fait, quand le projet est né. J'ai hésité à peu près une demi-seconde avant de dire oui. Mais je pense qu'il y a une autre chose qu'elles ne diront pas, parce qu'elles sont à la fois modestes et que je, sans doute moi seul je peux dire, c'est que c'est au-delà de cette esthétique et de ce décalage, il y a aussi une chose qu'elles font elles-mêmes en tant qu'autrice à la langue française. À part Grazina Plébanek, toutes ont écrit en français. Et elles font de la langue française quelque chose que moi je trouve merveilleux. Elles ont une petite musique, chacune de à leur façon et chacune différemment, que j'aime profondément et qui, je trouve, rend vraiment est à la fois un hommage à cette langue, puisque elles la prennent, elles la malaxent, elles en font quelque chose, et montrent aussi cette capacité de l'accueil du français. Et en même temps, elles le chahutent de façon que je trouve moi personnellement extraordinaire, et ce qui est une des grandes qualité aussi de ce recueil, en plus de la richesse de des thématiques qui y sont abordées.
Absolument, vous ne pouvez pas mieux dire de ce magnifique livre « Filles de l'Est, femmes à l'Ouest », publié donc aux éditions Intervalle, avec sa palette de couleurs, ses voix différentes, ses colères, cet humour, cette légèreté, cette lucidité, à lire par les femmes et par les hommes. Un très grand merci à Sonia Ristić, à Albena Dimitrova, Andrea Sarajova et Lenka Ornakova-Sivad. Merci à vous, Armand de Saint-Sauveur. Merci à Francky qui a réalisé cette émission. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission Entre chiens et loups sur IDFM Radio, qui sera consacrée au salon du livre de jeunesse à Enghien-les-Bains. Bonne soirée à l'écoute de nos programmes.